C'est Bezrat Hashem, un nouveau chapitre, le chapitre 50. Donc on s'approche de la fin du Tania, qui a 53 chapitres. Pour comprendre ce chapitre, je voudrais d'abord faire une petite introduction. Jusqu'à présent, dans les chapitres précédents, nous avons appris plusieurs catégories de l'amour de Dieu. On a expliqué comment le but de l'amour de Dieu, c'est d'amener une personne à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot. Très important à comprendre ça, ça on l'a expliqué plusieurs fois. Qu'il y a des gens qui pensent, ils disent « Moi j'aime Dieu dans mon cœur » et ça s'arrête là. « Je suis religieux dans mon cœur, mais ne me demande pas plus, ne me demande pas de mettre les tefillin, de faire Shabbat. » On a expliqué longuement que l'amour de Dieu doit obligatoirement amener une personne à servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Maintenant, si vous voulez, on va définir qu'est-ce que c'est l'amour. Je parle de l'amour de Dieu. D'accord. L'amour... Le roi Salomon, quand il parle de l'amour, il définit ça, Monsieur Yazdi, il a compris tout le mot, il définit ça, le roi Salomon, comme une tchouka. Pas tchouk-tchouka, tchouka. Alors c'est quoi tchouka? Non, attendez, c'est quoi tchouka? Tchouka, je sais pas, non, je sais pas, je vais essayer de trouver le bon mot. Tchouka, c'est une forme de passion, ce que j'allais dire. Une passion, une recherche de quelque chose. En général, quand on décrit l'amour, on décrit l'amour comme une recherche de quelque chose. Tu aimes quelque chose, tu es attiré vers quelque chose. D'ailleurs, en français, on parle d'attirance. Tu es attiré vers ce que tu n'as pas. Donc, de la même façon, lorsqu'on parle d'attirance et d'amour vers Dieu, ça veut dire que je suis attiré vers Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de m'approcher et de faire encore plus et encore plus et encore plus. D'accord? Ça, c'est une première approche. Cependant, attendez, j'y arrive. Cependant, finalement, dans tous les amours que nous connaissons, ça tourne autour de qui? Ça tourne autour de moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ai envie de m'approcher, c'est moi qui ai envie de connaître quelque chose. Et en général, dans les amours qu'on connaît, je ne me défais pas de ma personne. On a donné plusieurs fois cet exemple. On dit que quand par exemple quelqu'un dit « j'aime ma femme, j'aime mes enfants », tu les aimes, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire, jusqu'à combien tu es prêt à t'effacer pour eux? Tu dis « non, je les aime, c'est-à-dire, je les aime, je vais bien m'occuper d'eux, etc. » Mais il y a une limite, c'est-à-dire que je ne vais pas les aimer jusqu'à m'effacer. Je ne m'efface pas complètement, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'on vit. L'être humain est fait que même ce qu'il aime, il dit bon, je suis prêt à aimer quelque chose pour le sentiment que ça va me donner, je suis prêt même à faire des efforts, à faire des concessions, mais je ne vais pas m'effacer. D'où les conflits. Dès que par exemple quelqu'un il sent qu'il s'efface complètement et qu'il n'a plus d'existence, ben, il va s'accrocher avec sa femme, avec ses enfants, avec son patron, avec qui il veut. Il dit je veux bien aimer, je veux bien aider, je veux bien, mais il y a des limites. Alors, la même façon avec Dieu. Si vous voulez, on peut retrouver les mêmes conflits avec Dieu. Ça veut dire, je dis, je vais bien aimer Dieu. D'accord, je l'aime. Je donne à Dieu, je lui fais les mitzvot, je lui mets les tefillin, je lui fais mon shabbat, etc. Mais jusqu'où je vais m'effacer? Des fois, on sent que Dieu ne nous rend pas. Des fois, une personne pourrait sentir comme ça, que Dieu ne lui rend pas.
Hein? On doit le faire pour rendre.
Ok, je ne sais pas qu'on veut le faire pour rendre, mais on reste des êtres humains. Et un être humain, par définition, est un être égoïste. Est un être égoïste, il attend quelque chose. Même un petit peu, mais il attend quelque chose. Il attend, il dit, moi je donne, je veux le retour. Donc, dans tous les amours qu'on a traités jusqu'à maintenant dans le Tania, c'est un amour qui est tchouka. Tchouka en hébreu, comme M. Yazdi a dit, c'est une passion. C'est quoi une passion? Une passion, ça veut dire que je suis attiré vers quelque chose et j'attends le sentiment que cette chose va me donner. On est d'accord? Il y a ici peut-être par exemple des gens qui sont passionnés de foot. Peut-être, c'est possible, d'accord? Bon, jamais, d'accord? Alors c'est quoi un passionné de foot?
Ils sont pas là,
d'accord? Ils sont pas là. Il y a des matchs ce soir? Razak? Donc, d'accord, bon. Alors tu as des passionnés de foot, c'est quoi un passionné? Un passionné, c'est une personne qui a une passion, il a tiré vers le foot. Pourquoi il a tiré? Parce que le foot lui donne quelque chose. Parce qu'il voit un bon jeu, par exemple. On a imaginé que match sur match sur match sur match, ton équipe favorite joue mal. Elle joue mal. Elle t'apporte pas un retour. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de passion. T'arrêtes l'abonnement à Bein Sport, d'accord? T'as plus de passion. Pourquoi? Parce qu'une passion, forcément, tu attends un retour, un résultat. Razak. Maintenant, on va traiter aujourd'hui dans le chapitre 50 une nouvelle catégorie d'amour. Un nouvel amour. Un amour dans lequel tu n'attends rien. Et tu es prêt à t'effacer complètement. Mais ça c'est très difficile, ça. Voilà. Ça, c'est très difficile. Et pour reprendre les termes qu'on verra plus tard, on appelle ça un amour klot ha-nefesh. Kolot ha-nefesh, ça veut dire un amour dans lequel l'âme est capable de s'effacer complètement. Elle dit, je m'efface complètement pour la personne qui est en face de moi. Ça, c'est un niveau auquel je ne sais pas si on peut arriver. Les tzadikim arrivent à ce niveau-là. Nous, si on va à un niveau, ça veut dire aimer Dieu au point de m'effacer complètement, que je n'existe plus et j'attends rien, mais rien. Je n'attends rien. Ça, c'est un niveau auquel je ne sais pas si on peut arriver. On peut peut-être arriver parfois, sur quelques domaines, aimer quelque chose sans rien attendre de retour. Rien. Se donner complètement, s'effacer complètement.
Mais est-ce qu'on doit aimer Dieu de la même manière que l'on va aimer quelqu'un d'autre? Ou aimer une chose? Je sais pas.
C'est de l'amour. De... Non, mais je comprends ta question. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'amour? C'est quoi l'amour?
Il faut définir.
Je vous ai raconté cet exemple. Non, je ne l'ai pas raconté dans le cours de Tania. Je l'ai raconté dans le cours du vendredi matin. Une fois, il y a un rav qui a posé la question à ses élèves. Il a posé la question à ses élèves. Il a dit, qui aime le poisson? Alors, il y a un élève qui a levé la main. Il a dit, moi, j'adore le poisson. Non, quel poisson? Saumon. Alors, le rav lui pose une question. Dis-moi, toi, quand tu aimes quelqu'un, ta façon de lui montrer que tu l'aimes, c'est en le prenant, le tuant, le charcutant et le mangeant? Donc finalement,
en le mangeant cru.
En le mangeant cru. Donc finalement, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le poisson ou tu aimes
le
plaisir que te procure le poisson?
Le plaisir.
Ah, ça change tout. Pourtant, tu dis j'aime le poisson. Mais quand on réfléchit, en vérité, c'est pas le poisson que tu aimes.
C'est pas de goût.
Quelqu'un des. Bah oui. Et quel va dire j'aime ma femme? J'aime mes enfants. Attends, doucement. Non, mais dites pas rapidement. D'accord? Quelqu'un, il va dire, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Très bien, tu l'aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu l'aimes à elle? Ou est-ce que tu aimes le sentiment qu'elle te procure? Tu dis, j'aime mes enfants. Est-ce que tu les aimes à eux? Ou tu aimes le sentiment qu'ils te procurent? Et si le sentiment qu'ils te procurent n'est pas le sentiment que tu attends? Si par exemple, tu attends une certaine chose, et concrètement, tes enfants font le contraire. Ils prennent une piste différente que la tienne. Ils ne te donnent pas ce que tu veux.
Ils ont le droit.
D'accord? Ben oui, alors qu'est-ce qui se passe? Tu les aimes toujours ou tu les aimes plus?
Moi.
Ah, c'est difficile. Donc ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'il va dire ton fils? Et à juste titre, il va dire, papa, c'est pas moi que tu aimais. C'est mes résultats que tu aimais. Ouais. Donc il faut l'admettre. La majorité des amours que nous avons, même si on fait des efforts et des concessions, ça reste un amour égoïste. C'est comme ça, mais attendez, on n'a pas à te reprocher de ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. L'homme est un être égoïste. Pas que l'homme d'ailleurs. Toute créature est quelque part égoïste. Comme ça, Dieu nous a créés. Vous êtes d'accord avec moi?
En gros, ce que je veux dire, c'est que l'amour, c'est ce qu'on nous donne. C'est pas ce qu'on.
Ah oui.
C'est
ah oui.
Ce qu'on nous donne.
Dans la majorité des amours, c'est quelque chose que tu reçois. Tu donnes pour recevoir. Donc c'est une passion.
Ouais. Dans une passion. Que je reçois qui fait que je donne.
Exactement.
Il y a le.
Bien sûr. Donc. C'est pas vraiment. Donc finalement, c'est égoïste.
C'est égoïste, exactement.
C'est égoïste.
Tu as des mères qui apprennent à leurs enfants à aimer.
Apprendre à aimer.
Bon. On apprend à aimer. Et les enfants, eux, ils prennent l'amour. Ils en font quelque chose, eux. De ça.
Oui, mais c'est la question, encore une fois.
Mais il faut apprendre à aimer. Il y en a toute leur vie.
Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? C'est quoi l'amour? Si c'est apprendre à aimer, ça veut dire apprendre à donner pour avoir en retour. C'est une question.
Bah oui, forcément.
Okay.
Il y en a qui te servent.
Alors, on va développer ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va expliquer les deux catégories d'amour. Et vous allez voir que ce que je vais l'expliquer, moi aujourd'hui, je vais parler de Dieu. On va parler de l'amour qu'on a avec Dieu. Mais après, les notions que je vous explique aujourd'hui, vous pouvez les appliquer où vous voulez dans votre vie.
Bah ouais.
Vous pouvez les appliquer avec votre femme, avec vos enfants, avec qui vous voulez. Parce que c'est un concept qu'on va développer. Le concept du chapitre 50, c'est est-ce qu'un homme peut avoir un amour désintéressé? Puisque le problème, c'est qu'un amour intéressé dépend forcément d'un intérêt. Le jour où cet intérêt s'arrête, tu l'aimes parce qu'elle est belle, tu l'aimes parce qu'elle te procure du plaisir, tu l'aimes parce que si. Et le jour où elle est plus belle, qu'est-ce qui se passe?
T'arrêtes.
Tu divorces. Tu changes.
T'arrêtes.
La valeur résiduelle.
T'arrêtes devant.
Il faut comprendre que lorsque tu aimes ta femme, lorsque tu aimes tes enfants, c'est pas une équipe de football. Qu'aujourd'hui t'as un bon joueur qui court bien, alors tout le monde dit il est bon. D'accord. Et demain il y a un autre qui va courir mieux, on dira lui il court mieux.
Exactement.
Donc finalement, le joueur, t'en as rien à faire de lui. Ce qui compte, c'est qu'il te procure ton plaisir.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que nos enfants, c'est les équipes? Non, chas v'shalom. C'est plus que ça. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Veine, kol pri. Donc, je suis en bas de la page 372. Veine, kol prinot ou madrigot ahav hanal. Tous les niveaux d'amour qu'on a cités jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 50, Donc, non inclus, bien sûr. M, ici, tradimina.
Hanal.
Alors, Hanal, c'est-à-dire c'est les précédentes, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, dans les 49 chapitres. On a parlé plusieurs fois de l'amour, mais tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, M, ici, tradimina, proviennent du côté droit. On va expliquer tout de suite. Ou prinat Kohen, du niveau Kohen, anikra, ishreset, qui est appelé homme de bonté. Ça veut dire que chacun de nous, dans notre corps, dans notre âme, on a un niveau de Kohen. Le Kohen, c'est l'homme de la bonté. Le côté droit, je parle pas du côté droit physique, d'accord? Je parle du côté droit en métaphysique dans notre corps. Le côté droit, ça représente l'amour. Et c'est le Kohen qui est en nous. Ok? Le Kohen. On verra après le Lévi. Il y a un Kohen. Le Kohen qui est en moi, c'est l'envie de donner, l'envie d'aimer. Ok? Venikra, il est appelé Kesef Akodashim. Ce niveau-là est appelé Kesef. Kesef en hébreu, ça veut dire quoi? Alors, vous allez traduire Kesef par l'argent. Mais en vérité, la traduction littérale de Kesef, c'est pas l'argent. Kesef, ça vient du mot de kisufim. Kisufim, ça veut dire quoi? Aspirer à. Et c'est pour ça qu'on appelle Kesef l'argent. Pourquoi on appelle l'argent Kesef? Parce que l'homme aspire à l'argent. Il aspire vers ça. Donc Kesef, en hébreu, ça vient du mot Kosef. C'est la même racine, n'est-ce pas? Kosef, aspiration. Et donc, on a tous les amours qu'on a cités jusqu'à maintenant sont des amours qui sont en mode Kesef, aspiration. C'est-à-dire, j'aspire à quelque chose. Je suis attiré vers quelque chose parce que j'aurai quelque chose de retour, en retour de l'autre côté. J'aspire vers ça parce que j'aurai du retour. D'accord. Ah, cependant, yesh od prinat ahava aolal kulana. Mais, on tourne la page, donc là on a la page 374. Ah, yesh od prinat ahava aolal kulana. Mais il y a une autre forme d'amour qui dépasse tous les niveaux d'amour qu'on a cités jusqu'à maintenant. Kema'alat azahav ala kesef. Et si on devait donner des catégories, on devait matérialiser cette catégorie, on dirait que si l'amour précédent, jusqu'à présent, était comparé au kesef, d'accord? Et bien là, on va parler de zahav. C'est quoi zahav?
L'or.
L'or. D'accord? Donc il y a l'amour d'argent et l'amour d'or. L'amour d'argent, on va dire la médaille d'argent pour être un peu dans l'air du temps, d'accord? Donc, la médaille d'argent, c'est quoi? C'est quand tu aimes. Et tu attends un retour, il y a une aspiration. J'aspire vers quelque chose pour avoir un retour. Mais après, il y a Zahav. C'est au-dessus. C'est quoi cet amour? Ve'i ahava kirishvesh. Là, on parle d'un amour kirishvesh comme des charbons ardents. Mais prinat gvurot elyonot de bina ilaha. Et là, cet amour ne provient pas de la bonté, mais il provient au contraire de la rigueur. On va expliquer tout de suite, hein. Ça, il nous faut quelques lignes pour expliquer. De'ainu, ça veut dire. De quel amour on parle? En réfléchissant à la grandeur de Dieu, la grandeur infinie de Dieu. Découla kame kelachashim mamash. À quel point Dieu est énorme, Dieu est grand, et que on est considéré comme rien devant lui. Titlahet vetitlahev nefesh. L'âme va s'enflammer et va avancer. L'ikar tiferik dulato ou l'istakla beikara de malka. Qui est riche et échel évêt aza olal mala veli pared mais abtila veitiv chez nechazet ben. Au point de vouloir quitter la mèche et le bois dans lequel elle est attrapée. Alors là, je vais donner un exemple tout de suite. Je vais expliquer. C'est très simple ce qu'il va dire ici. Pour comprendre ce que je veux dire, on va prendre un exemple d'une Medoura. Medoura, c'est vous allez allumer à l'Akba Omer, vous allez allumer une qu'on appelle ça un feu. Un grand feu. D'accord? Bon. Donc vous allumez un feu. Grand feu. Un feu qui brûle, qui braise, le bois il brûle. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il monte. Il monte où?
Là-haut.
Où, là-haut? Il va faire quoi en haut? L'eau descend, le feu monte. D'accord? C'est la base, c'est un principe de physique. C'est, voilà, le chaud va toujours vers le haut, le froid va toujours vers le bas. Donc, le feu monte. Où il va, le feu? Le feu, il va à sa source. Il est attiré à sa source. D'après Maïmonide, la source du feu se trouve en dessous de la lune. En tout cas, il est attiré à sa source. Ça, c'est clair. En physique, on le sait, le feu est toujours attiré vers l'eau. Maintenant, il y a un problème. C'est que le feu, en étant attiré vers sa source, ce feu, il va forcément se décomposer. Parce que ce feu, lorsqu'il est devant moi, il a une consistance. Il y a du feu, il y a une énergie. Mais ce feu, lorsqu'il a envie de quitter, de partir à sa source, donc il est attiré vers sa source, n'est-ce pas? En allant vers sa source, qu'est-ce qui va se passer? Ce feu va se décomposer. Il n'existera plus. C'est-à-dire que lorsque cette énergie va monter en haut, qu'est-ce qui reste cette énergie en haut? Zéro. Ça veut dire qu'ici, on a un phénomène intéressant, qui est unique en son genre. L'eau est attirée à sa source, mais elle reste quelque chose en bas. L'eau est attirée par l'attraction terrestre vers le bas, mais en bas, il reste de l'eau. Mais le feu, lorsqu'il monte en haut, qu'est-ce qui reste du feu? Il reste rien. C'est-à-dire que là, on a un exemple d'un amour. Et d'ailleurs, on parle d'amour comme le charbon. Un amour qui est tellement fort, c'est-à-dire que le feu, il est tellement attiré vers sa source, qu'il est prêt à se décomposer pour ça. Donc, à ne plus exister. Tellement il est attiré vers sa source. Et on a deux exemples concrets là. On a l'eau et le feu. L'eau est attirée aussi vers sa source. Elle descend, descend, descend. Elle dit, je suis attiré vers ma source, mais il y a des limites. Je ne vais pas me décomposer. Le feu, il dit, moi, je suis attiré vers ma source, et tellement je suis attiré, que je suis prêt à me décomposer pour ça. Alors, bien sûr, c'est les règles de physique, mais si tu poses la question, vous savez, on a donné plusieurs fois, c'était dans le chapitre 19 du Tanya. On a expliqué que, comment tu retiens le feu? Tu retiens le feu avec un combustible, avec une mèche. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as plus de combustible, lorsque tu n'as plus de mèche? Où va le feu? Où va le feu? Il va en haut. Pourquoi il va en haut? À quoi il sert en haut? Hein? Il ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire, c'est pas grave. Il va te dire, tellement je suis attiré vers ma source, que j'ai envie d'aller à ma source, quitte même à me décomposer. Ça, c'est un autre niveau, ça. Est-ce que moi, je peux dire que j'aime quelqu'un, que j'aime Dieu, ou j'aime quelque chose, au point d'être prêt à me décomposer pour cette chose? Est-ce qu'il y a une chose dans votre vie que vous pouvez affirmer maintenant, autour de cette table, que vous aimez, et que tellement vous aimez, au point que vous êtes prêt à vous décomposer pour elle? Et quand je dis décomposer, c'est complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moi. Je parle même pas de kamikaze, parce qu'un kamikaze, il est prêt à décomposer son corps, mais il se dit, en décomposant mon corps, on parlera de moi. Donc il n'a pas décomposé son moi. Il y a toujours quelque chose. Et toujours, voilà, je vais toujours tirer quelque chose. Les gens diront, j'étais prêt à aller jusqu'à là. Donc tu tires quelque chose. Est-ce que vous connaissez quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vous effacer complètement au point de vous décomposer pour ça? Là, on commence à comprendre, c'est compliqué. Là, on commence à comprendre qu'on n'a pas ce niveau-là. Alors ça, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit, et là, il reprend un mot du Zohar, il dit que tu as l'amour comme la bonté et tu as l'amour comme la rigueur. L'amour comme la bonté, c'est l'envie de donner, c'est une passion, mais pour récupérer quelque chose. Mais c'est noble, c'est pas forcément égoïste, mais c'est, je donne, mais au final, il y a un échange. Et tu as l'amour gvura, l'amour qui est la puissance que tellement tu aimes, que tu es prêt non seulement à donner quelque chose, tu es prêt à te donner. Donner ton être sans attendre aucun retour. Le Rabbi explique dans un commentaire qu'on retrouve ça un peu, enfin un petit peu, même beaucoup, mais d'une certaine façon, chez la maman juive, par rapport à ses enfants. Il fait tout un commentaire autour qu'on avait fait d'ailleurs, je crois, il y a deux ans, autour de Rachel Imenu. Que Rachel Imenu, c'est le prototype de la maman juive qui est prête. Ahmed, je reviens, j'étais au couvert de Rachel la semaine dernière, d'accord? Donc on sent des choses extraordinaires là-bas. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était prête à être enterrée au milieu du chemin pour être là pour ses enfants le jour où ils auront besoin d'elle. C'est-à-dire qu'elle a mis de côté complètement tous ses intérêts pour les intérêts de ses enfants. Voilà, on retrouve ça un peu chez la maman. Un homme incapable d'en faire ça. Incapable. Puis écoute, je vais bien donner, faire des efforts, mais atkan, ça y est, stop. Je peux pas plus que ça. L'amour comme l'eau, l'amour comme le feu. L'amour comme l'eau est un amour, quelque part, qui est intéressé. Ça peut être un intérêt noble, mais il est intéressé. L'amour comme le feu est un amour qui est désintéressé. Et donc là, on parle plus d'une passion, mais on parle d'une soif. Ça, c'est la différence. On misait bas à l'idée, donc je suis en bas de la page 375, on misait bas à l'idée de Simaon. Et là, on arrive à une soif. Alors, c'est intéressant, parce qu'en hébreu, il y a deux termes. Il y a tout à l'heure, on a employé le terme kisoufine, d'accord? Kisoufine, on a employé le terme kisoufine, d'accord? Et on emploie le terme donc tchouka, on a employé le terme tchouka, et on a employé le terme. Maintenant, on emploie le terme tsimaon. Tchouka, c'est une passion. Tsimaon, c'est une soif. Quelle est la différence entre une passion et une soif? En français, il y a deux mots.
Oui.
C'est quoi la différence?
La passion, tu n'as pas. C'est pas forcément vital, alors que la soif l'est.
Oui, mais on va aller plus loin que ça. Enfin, là, en tout cas, dans la définition de l'amour, je veux dire, t'as l'amour comme une passion et l'amour comme la soif.
C'est un besoin. Est-ce que c'est un besoin?
La passion, c'est un plaisir que tu recherches. Donc, il y a un retour. Il y a une passion, il y a un retour. La soif, c'est pas un plaisir que tu recherches. Tu as soif de quelque chose. C'est pas par le plaisir, tu as soif de quelque chose. Maintenant, imaginez une soif qui est intarissable, qui s'arrête jamais. Imaginez que voilà, aujourd'hui il fait chaud. Imaginez, hier il faisait chaud, vous avez eu chaud hier avec le jeune, d'accord?
C'est une recherche.
Exactement. Imaginez que vous avez soif et que vous buvez hier soir, vous buvez, vous avez toujours soif. C'est horrible. Mais bah, imaginez que le tzaddik ressent ça.
Que tu bois aussi.
Imaginez que le tzaddik ressent, il boit, c'est-à-dire il s'approche, il sent toujours une soif, une recherche, exactement. Une recherche. Recherche au point, il est prêt même.
De jamais être complet, quoi.
Jamais être complet. Et être prêt à s'effacer complètement pour chercher quelque chose. Il trouve jamais, il cherche toujours.
Mais est-ce que Dieu adhère ce genre d'amour? Je suis pas convaincu.
Ça veut dire quoi? Quelle est la question?
Ben, vous avez compris.
Votre question, c'est est-ce que.
C'est un amour qui est sans fin, qui risque d'arriver jusqu'à.
Ok. Oui, non, je comprends ce qu'il veut dire. Être fou de Dieu, quoi. Ouais.
Non, mais tu peux laisser ta vie.
Un extrémiste, je comprends la question.
C'est dans une quête désespérée, le mec qui se prend, il peut y laisser sa peau.
Oui, est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut le.
Est-ce que cet amour-là, finalement, est-ce que Dieu attend de donner cet amour-là qui est. Qui peut être fatal, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. Dieu attend qu'on mette des limites à cet amour.
Ah, alors on va y arriver, alors.
Notamment, on le sait par exemple, on sait que Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, de quoi sont-ils morts?
De trop d'amour.
Ils sont morts d'un trop-plein d'amour. Mmh. C'est-à-dire qu'ils voulaient tellement s'approcher de Dieu qu'ils ont eu cette soif et qu'à un moment ils devaient dire stop et ils n'ont pas dit stop. Mmh. Et Dieu n'était pas content. Pourquoi Dieu n'était pas content? Parce que Dieu, il dit, c'est pas toi qui décides quand ta mission se termine sur Terre. Donc, si vous voulez, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. C'est-à-dire, en soi, le fait de vouloir décoller, c'est bien. Mais après, il faut savoir atterrir. Un décollage sans atterrissage, c'est problématique. D'accord? C'est, voilà, ça. Décoller, c'est beau, mais après, il faut atterrir. Donc, vous avez raison que le décollage en soi sans atterrissage, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, vouloir décoller, c'est beau. Sentir, comme a dit Yves, que tu recherches quelque chose et que tu as toujours une soif. Qui s'arrête jamais. C'est même pas une passion, c'est une soif.
C'est gratuit.
Ça s'arrête jamais. Il cherche toujours. Il cherche. Tu vois ça chez les tzadikim? Tu vois ça? T'as un tzadik à 80 ans. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il a tout trouvé, celui-là. Il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche?
Immédiatement. J'ai payé.
Une passion qui n'est jamais assouvie. Comme vous décrivez, par exemple, la soif, la faim. On fait allusion à ce genre de...
Alors non, justement. C'est la différence entre la soif et la passion. C'est qu'une passion, on la recherche, mais au bout d'un certain temps, lorsqu'on voit qu'on l'obtient pas, on s'arrête.
On
cherche autre chose.
On peut s'en passer.
Alors que la soif, quelqu'un qui a soif, t'as beau lui répéter 15 fois, il n'y a pas d'eau, il aura toujours soif. Ouais. La passion, quelqu'un est passionné de foot. Maintenant, il n'y a pas de match pendant 10 ans. Imaginez que dans le monde entier, il n'y a pas de match pendant 10 ans. Ben, il changera de passion. Mais quelqu'un, il a soif. Il n'y a pas d'eau pendant 2 jours, 3 jours. Non, il n'arrêtera pas d'avoir soif. Il ne peut pas arrêter d'avoir soif. C'est vital.
Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais il n'y a pas de souci.
Ouais, donc c'est la même chose. Quand on parle de l'amour de Dieu, il y a l'amour comme une passion. Ah bon, je suis amoureux de Dieu, j'ai envie d'avancer vers Dieu. Mais c'est une passion. Une passion, je l'ai plus.
Après, il y a une passion soif, on va dire.
Oui. Ah non, c'est pas la même chose.
Non, j'entends bien.
Il y a la passion et la soif.
C'est un peu opposant. Quelqu'un qui a soif, qui a cette sensation perpétuelle d'insatiété finalement.
Ça, c'est une soif.
D'accord.
Sauf.
Donc, c'est ce que recherchent certains chacham,
c'est ce qu'ils recherchent. Alors, on va voir comment une des personnes qui en parle beaucoup de cette fameuse soif, c'est le roi David. Et curieusement, son fils aussi, le roi Salomon. Comme quoi, tel père, tel fils.
Il n'y a pas une notion de mazo.
Pas du tout, au contraire. Non, au contraire. Non, comprendre qu'il me manque quelque chose.
Dans la passion, oui. Mais pas dans la soif. Ouais.
Regardez, si ça ne vous dérange pas, on va développer un peu dans les mots, après on posera la question. Ok? Donc, ou misé ba'a l'idée de Simaon, de là on arrive, je suis en bas de la page 375, de là on arrive à une soif, comme il est écrit, un psaume très connu, le psaume 84, Tsam'a lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Il y a autour de ça une chanson très connue que le rabbi a composée. Tsama lecha nafshi. Tsama lecha nafshi. Mon âme a soif de toi. Maintenant, ça c'est ce que le roi David a dit. Le roi David parle de soif, pas de passion. C'est-à-dire que le roi David, il a déjà atteint ce niveau. C'est même pas une passion qu'il a envers Dieu. C'est carrément une soif, il est prêt à aller jusqu'à tout. Maintenant, son fils, le roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, il est parti encore plus loin. Ou peut-être il a expliqué ce que son père voulait dire. Veacharkach, et ensuite, Magia, il arrive, les prinat, Cholat Ahava.
Ami.
Dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, là-bas il dit, Ki Cholat Ahava Ani. Je suis malade d'amour. Comment l'amour peut rendre malade? Comment l'amour peut rendre malade? À quel moment l'amour rend malade? Ça te rend malade quand tu n'obtiens pas ce que tu cherches.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui. Quand tu trouves ce que tu cherches, t'es rassasié. Tu cherches encore, mais t'es rassasié. À quel moment l'amour rend fou, te rend malade? C'est quand tu cherches et tu trouves pas. Donc tu développes, tu commences par une passion et tu finis par développer une soif. Une soif qui te rend malade. Malade. Maintenant, nous quand on dit ça, tout de suite certains d'entre nous ici autour de la table, ils s'imaginent d'une femme. Maintenant imaginez, jamais, d'accord. Maintenant imaginez si au lieu de parler d'une femme, on parlait de Dieu. Quelqu'un qui est fou amoureux de Dieu. Il a peur.
Non, mais c'est pas le même.
Non, mais on peut pas comparer. C'est pas comparable.
C'est physique avec une femme.
C'est physique avec Dieu. C'est quelque chose de
inatteignable. Je suis pas d'accord.
C'est difficile.
Non, excuse-moi, je suis pas d'accord. Avec une femme, c'est pas physique. Le physique, c'est non, c'est pas physique. Non, le physique, c'est une expression de. C'est ce qui permet d'exprimer une relation profonde. Une relation physique, une relation d'animaux. Bah oui, on n'est pas des animaux.
Non, mais ça veut dire.
Bah quoi, non, mais oui.
Une femme et puis qu'il a pas au retour.
Non, mais je comprends. Ça veut dire que la relation physique n'est qu'une expression d'un amour beaucoup plus profond. En tout cas, on espère arriver à ça. Sinon, on n'a rien compris.
Non, on ne peut pas comparer. C'est clair que d'accord. Ce que Dieu nous donne, c'est inimaginable.
La vraie relation qu'on a avec une personne, on a quelque chose, c'est une relation spirituelle. C'est la vraie relation. Relation spirituelle avec quelque chose. Mon âme se relie avec l'âme. Donc, de la même façon, quand mon âme se relie avec Dieu, tu vois, des fois, dans notre vie, nous, tu vois, des fois, tu cherches Dieu et tu le trouves. Tu le trouves. Tu dis, bon, voilà, j'ai cherché quelque chose, j'ai cherché la spiritualité, j'ai trouvé. Un bal tchouva, tu vois, il a commencé à faire tchouva. Il cherchait quelque chose, il a trouvé. Il est bien. Mais imaginez que le tzaddik, il trouve pas, il trouve jamais. Il est tout le temps soif.
C'est pas qu'il trouve pas. C'est qu'il trouve.
Mais ça lui suffit pas. Il veut toujours plus.
C'est comme un drogué. Il a sa dose.
Non, mais voilà. C'est-à-dire, imaginez une personne, par exemple, il a gagné 1 million d'euros. Il est pas tranquille, il lui faut le 2e million. Il a gagné 2, il lui faut 4. Il a gagné 4, il lui faut 8. Il s'arrête pas. Il a gagné 100, il lui faut 200 millions. Ça s'arrête pas. Imaginez que le tzaddik, il est comme ça, mais c'est pas pour l'argent.
C'est pour Dieu.
Il s'arrête pas. Il s'arrête jamais. Mais 80 ans, il dit, je vais encore, j'ai un niveau que j'ai pas trouvé encore. Il cherche, il monte encore.
Il n'y a pas la notion de satisfaction.
D'accord. Non, mais il y a la notion que tout ce que, je me suffis pas. Non. Je veux toujours plus.
Il y a un moment, il a une.
Comment chez Katou, on va arriver. Comment chez Katou, comme il est écrit, d'accord. Donc on a dit, Vegam Kalta Nafshi. Ok. Alors non, pardon. Vacharkar, je suis page 376. Vacharkar ba'ali déclot anefesh mamash. Et de ça, on vient à une véritable expiration de l'âme. Comment chez Katou, Vegam Kalta Nafshi. Ça, c'est dans le psaume 84. Tout à l'heure, c'était le psaume 63. Là, c'est le psaume 84. Vegam Kalta Nafshi. Et aussi, mon âme aspire. Ça veut dire que l'âme, elle monte vers Hachem. Elle s'arrête pas. Ça, c'est un deuxième niveau. Là, vous comprenez qu'on parle d'une autre ligue, là. C'est pas la même chose. C'est pas un amour comme on connaît. Nous, on connaît un amour, bon, c'est 5 millions, millions. Je donne, je reprends. Mais là, on parle d'un amour qui s'arrête pas. Ça veut dire que t'as le 1, tu veux le 2, t'as le 2, tu veux le 4, t'as le 4, tu veux le 8. Faut toujours doubler. Double, tu montes, t'arrêtes jamais. Ça, c'est cet amour qu'on parle ici. Alors ça, cet amour, le premier amour qu'on a vu tout à l'heure, il correspondait au Kohanim. On dit le Kohen, c'est l'homme de bonté, l'homme d'amour. Celui qui veut donner, c'est de la passion, mais il veut recevoir aussi. Il y a un échange. Là, on parle d'un autre amour. On parle d'un amour dans lequel tu donnes, tu t'effaces, sans rien attendre de retour. Ça, c'est l'amour des Lévim. Quel rapport avec les Lévim? On va expliquer tout de suite. Veiné. Mikan. Je suis au milieu de la page 376. Veiné. Mikan yatsa shorash Lévim le matin. C'est de là qu'est sorti l'origine des Lévim ici-bas. Quel rapport? On va expliquer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, où les Atid, lorsque ma chère viendra, Sha'olam Italé, lorsque le monde s'élèvera, Iyuhem a Kohanim. Lorsque ma chère viendra, les Lévim seront les Kohanim. Kmoshekata va Arizal, al Pasuk, comme le Arizal a écrit sur le verset, Veha Kohanim Halvi'im. Il y a un verset qui dit, les Kohanim, les Lévim. Alors, le Arizal lui pose la question, il dit, mais les Kohanim ou les Lévim? Ça veut dire quoi? Il dit, exactement, Chazak, chez Alvim, chez Archav, que les Lévim d'aujourd'hui, Iyu Kohanim, les Hatid seront les Kohanim du futur. Alors, quel rapport avec les Lévim? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'analyser ce que faisaient les Lévim. Qu'est-ce que fait le Lévi dans le Beth Amikdash?
Il chante.
Très bien, Razak. On va parler de musique maintenant. Si on parlait de musique. Et là, vous allez voir que la musique, c'est la définition parfaite de ce qui nous intéresse. Va'avodat Lévim, Aïta, Léharim, Kol, Rina, Vetoda. Le service des Lévim était d'élever la voix dans la mélodie. Beshira, donc en remerciant Hachem, Beshira, Vezimra, Benigun, Uvinima. Donc on a le chant avec la bouche, la musique avec un instrument, d'accord, la mélodie, l'harmonie, harmonieusement, etc. C'est la musique. Maintenant, comment on fait la musique? Comment on fait de la musique? La musique, c'est l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est lorsque... Écoutez bien. L'harmonie, c'est lorsque tu joues plusieurs notes, tu montes et tu descends constamment. Il y a quelqu'un ici qui joue de la musique? Non? Personne joue de la musique ici? Bon, très bien. Vous écoutez de la musique, sinon?
On écoute.
Quand vous écoutez de la musique, d'accord?
On écoute.
On aurait pu penser que, voilà, la musique, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La.
Non.
D'accord? On te dit non. La musique, ça varie constamment. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on arrête, ça varie constamment. On est d'accord? Hein? Tu es d'accord avec moi?
D'accord.
C'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui varie constamment. Ça représente quoi spirituellement, ça? Ça représente le fait qu'il se recherche tout le temps. Le Kohen représente celui qui a la touche, il a la bonne, il monte, c'est fini, il bouge plus. Le Lévi représente celui qui se recherche constamment. Une fois il monte, une fois il descend, une fois il prend un Do, une fois il prend un La, une fois il prend un Ré, il monte, il bouge. Ça c'est la musique.
C'est variant.
Bien sûr, par définition la musique, ça doit être varié. Si c'est pas varié, c'est pas beau. C'est ça l'harmonie. Derrière, on retrouve aussi l'harmonie. Comment on dit par exemple, on parle de couleur harmonieuse. C'est quoi une couleur harmonieuse? Regardez la nappe que j'ai devant vous. J'ai ici du blanc et du rouge. Le blanc et le rouge ne sont pas la même gamme de couleurs. Mais pourquoi c'est harmonieux? Parce qu'on a réussi à prendre deux couleurs qui contrastent, qui coupent, d'accord? Et on a réussi à les marier. Donc on a pris une chose et son contraire, on les a mariées. De la même façon dans la musique, c'est exactement ce qu'on fait dans la musique. Dans la musique, on va prendre un instrument qui est doux, un instrument qui est... Tu vas prendre par exemple, tu vas prendre un piano, tu vas prendre une batterie, ça n'a rien à voir. Un piano et une batterie, quand tu veux les mettre, tu dis, mais la batterie c'est beaucoup plus violent qu'un piano. Qu'est-ce que tu les mets dans la même gamme, Birlal? Qu'est-ce que tu joues ensemble? À côté tu mets une basse, à côté tu mets une guitare, qu'est-ce qu'on va leur rajouter encore?
Une trompette.
Quel rapport?
Qu'est-ce
que tu compares maintenant? Tu compares des instruments qui n'ont rien à voir. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est quand tu arrives à prendre tous ces éléments qui ont l'air incompatibles, et tu vas prouver que non seulement ils ne sont pas incompatibles, mais au contraire, ils sont complémentaires. Ça, c'est la force du Lévi. La force du Lévi, c'est un chef d'orchestre. La force du Lévi, c'est d'être capable de monter, descendre. Donc c'est une recherche constante. Parce que si le Lévi était comparé à celui qui monte, normalement la musique devrait aller qu'en montant, et ça ne descend pas. Alors que la musique, il n'y a que des variations. Ça monte, ça descend, crescendo, décrescendo, ça n'arrête pas de monter, descendre. Ok? C'est pour ça que les Lévim, leur rôle, c'est de jouer de la musique. Et nous, on croit Stam, ils jouent de la musique. Dis-moi, des musiciens, ok? On va leur faire le solfège, ils vont jouer de la musique. Derrière cette idée de jouer de la musique, il y a une image très forte. C'est que le Lévi se recherche constamment. Constamment, il ne s'arrête jamais. Donc, Biprinat, Ratso, Vachov. Le Lévi représente celui qui est constamment en train de monter et de descendre. Monter, descendre. Élan, retour. Shei prinat ahava azazo, keshal evet ayotse mina bazak et eita vigmara perikbet de chagiga. Et donc, la Gemara compare ça à la flamme qui jaillit du creuset. D'accord? Vous savez le creuset. Vous savez une flamme, et donc c'est une flamme qui vient, et qui repart, et qui vient, et qui repart. Et puis, ça veut dire, ça part dans tous les sens, ça part, et ça bouge. Le creuset, vous savez ce que c'est le creuset? Le creuset, c'est l'endroit où on fait fondre l'or. Donc t'as beaucoup de feu là-bas, c'est très très fort. Le feu qui rentre, qui revient. Et c'est constamment, ça s'arrête pas. Non-stop, hein? Comme un volcan. Ça s'arrête pas non-stop. Ça c'est l'amour, le deuxième amour. L'amour comme le feu. Un amour qui ne s'arrête pas. Alors, maintenant, l'Admour Hazaken, vous savez que l'Admour Hazaken connaît cet amour. L'Admour Hazaken raconte, l'auteur de ce livre, on raconte que lorsqu'il faisait cette fille-là, à un moment, il faisait la fille-là avec la communauté, mais il priait pas avec eux. Il répondait au Kadi, j'amène chez Marba, il commençait un petit peu avec tout le monde, mais il priait principalement dans sa chambre. Mourazaken. Et on dit que le Mourazaken, dans sa chambre, on a eu besoin, dans son bureau, donc où il priait, on a eu besoin d'installer des coussins sur les murs. Vous savez pourquoi ? Quand il faisait cette fille-là, il était ailleurs.
Il était en transe.
En transe, complètement. Et ça arrivait souvent que pendant la tefila, on l'entendait dire, pas hurler, mais dire, parler à Dieu, dire à Dieu, je ne veux pas de ton Gan Eden, je veux pas de ton Olam Haba, je veux toi. Et il parlait, il restait comme ça des heures dans cette tefila. Je veux dire, on a eu besoin d'installer des coussins. On a dû molletonner les murs pour pas qu'ils se fassent mal. Pourtant, ça n'a pas l'air. Quand on étudie le Tanya, c'est un livre qui est carré, parce que le Morazakan est très carré. Mais quand il rentre dans un moment de tefila comme ça, il rentre dans un moment de transe, dans lequel, voilà, il monte. Sauf que, comme tu as dit tout à l'heure, vous avez dit à juste titre, il faut savoir s'arrêter un moment. C'est vrai, il faut savoir s'arrêter. D'ailleurs, il y a une histoire là de Morazakan. Le Morazakan, il raconte, il dit une fois, hein, il était en train d'étudier la Torah avec Rabbi Avraham Amalar. Ah, il faut que je vous parle de Rabbi Avraham Amalar. Le Morazakan, lorsqu'il a connu la chassidoute, il n'est pas né dans une famille chassidique. Il ne s'est même pas marié avec une fille chassidique, aucun rapport. Il était une famille lituanienne. Et après son mariage, il recherchait, il voulait avancer dans la Torah. Alors il s'est dit, bon, la Gemara, je connais déjà pas mal, mais j'ai entendu qu'il y a un endroit où on apprend à prier, à Meziritch. Alors il est parti. Alors, il avait un safek, il avait un doute, etc. Il y avait un moment, il y avait une intersection, là pour aller à Vilna, et là pour aller à Meziritch. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où aller. Hein? Hein? C'est un choix de taille. Et alors il a dit, bon, étudier, je connais déjà à peu près. Je sais, bon, on peut toujours apprendre mieux, mais je connais déjà. Mais prier, je sais pas prier. Donc il dit, je vais à la Meziritch. Il arrive à Meziritch, dans Razaken, il arrive à Meziritch. Et il voit, il est déjà une heure, je sais pas, il devait être au moins 10h du matin. Il voit les gens en train de prier. Il dit, c'est quoi cette synagogue? À 10h du matin, ils sont en train de prier. Moi, à 10h du matin, ça fait à 10h du matin, ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'abord d'étudier, de se préparer, une longue fila. Il a pas compris, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font en train de prier? Qu'est-ce qu'ils font rentrer à cette heure-ci? Donc il a pris ses affaires, il est reparti. Ça l'a choqué. Pour lui, dans sa tête, on termine la fila à 7h du matin. Prie honnête, à 5h du matin, 6h, c'est fini, après, on ne connaît pas. Je sais pas ce que ça veut dire étudier avant la fila et faire une fila qui dure 2h, 3h, il sait pas ce que ça veut dire. Il est reparti, il marche 2-3 km et il s'aperçoit qu'il a oublié son écharpe. Alors il revient pour chercher son écharpe. Et là, quand il revient, il avait déjà fini la tefila. Et il voit le Magid Meziritch assis autour de la table avec les élèves, en train d'étudier la Gemara. Il dit, ah, la Gemara, ça sympa, on va écouter ce qu'ils vont dire. Et donc il se met à écouter, et il entend, il pose une question, il dit, ah, cette question je la connais, j'ai une bonne réponse, je vais voir ce qu'il va répondre. Et là, il voit comment le Magid Meziritch prend le sujet de Gemara, et il le retourne complètement avec une réponse d'une autre ligue, autre chose qu'il ne s'est même pas imaginé. Ça l'a bluffé, il est resté. Et on dit chez les chassidim que voilà, que ce qui a fait revenir l'admor Azakan, c'était finalement
une écharpe.
D'accord? D'accord? Pourquoi il devait revenir? Bon. Donc il revient. Magid Meziritch savait exactement à qui il avait affaire. Il savait exactement de quoi il avait parlé quand il était là. Et donc il a accroché l'admor Azakan. Et donc tout de suite, c'était le plus jeune. C'était le plus jeune de l'assemblée. Et donc il fait partie de l'équipe de l'admor Azakan. Et l'admor Azakan lui propose un deal. Il lui dit, écoute, tu es jeune, tu commences dans la chassidoute. J'ai un deal à te proposer. Là, vous allez voir où je vais arriver à l'amour. Il dit, mon fils, Rabbi Avraham, on appelait Rabbi Avraham l'ange. Il avait un fils, le Magid Meziritch avait un fils qui s'appelait Rabbi Avraham. Juste pour ceux qui ne savent pas, le Magid Meziritch était le successeur du Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme. Donc le Magid Meziritch avait un fils qui s'appelait Rabbi Avraham l'ange. C'est pas lui qui l'appelait l'ange. Tout le monde l'appelait l'ange parce que c'était une personne qui était complètement détachée de la réalité. On dit que c'est une personne, il connaissait pas la forme d'une pièce. C'est parce que c'est une pièce. Tu lui montres une pièce de 10, de 20. Il connaît pas ce que c'est. Rabbi Avraham Amalar, d'accord. Donc le Magid Meziritch propose à Admor Hazaken, il lui dit, écoute, je vais un deal à faire avec toi. Toi, tu vas enseigner la Gemara à mon fils, Rabbi Avraham, et lui, il va t'enseigner la Chassidut. Et vous allez avoir une gviout de 2 heures par jour. C'est-à-dire, vous allez avoir un moment fixé de 2 heures par jour. 1 heure, tu étudies avec lui la Gemara. Et 1 heure, lui, il étudie avec toi la Chassidut. S'il te plaît? L'Admor Hazaken dit, bien sûr. Donc, deal. Marché conclu. L'Admor Hazaken, il raconte que souvent, ça arrivait, hein, que lorsqu'ils étudiaient, comme d'abord ils étudiaient la Chassidut, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Souvent, il bougeait un peu la montre. Pour étudier plus longtemps avec. Bah oui. Pour étudier plus longtemps avec. Hein, bah oui. Tellement, hein?
Il reculait la montagne
à chaque fois, tellement il voulait étudier avec le Rabbi Abraham. Et il raconte la chose suivante. C'est là où je veux en arriver. Il raconte qu'une fois, il était en train d'étudier. Il dit tellement il montait, il était en train d'une extase, qu'il sentait qu'ils allaient partir. Il dit, je sentais vraiment qu'on était, c'est-à-dire qu'on déjà, il a affaire avec Rabbi Abraham Malar, qui est bon, il est déjà en extase tout le temps. Il dit, je sentais qu'on était en train de partir. Et il dit, je suis parti dans la cuisine, je suis parti chercher du pain avec du beurre, du pain avec du beurre, comme ça il dit, et le pain avec le beurre nous a calmés. C'est-à-dire d'habitude, il mangeait que le pain, tu vois, mais là, il a rajouté le beurre, c'était la petite tahava, le petit plaisir, le petit kiff, et ça les a tout de suite, le pain avec le beurre, tu vois. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire que l'amour à Zaken, c'est ce que c'est, cet amour d'extase. C'est exactement ce qu'il sait de quoi il parle. L'amour de l'extase. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken nous dit, page 378, il nous dit que ce deuxième amour qu'on est en train d'expliquer, Ve'ifshar leva'er inyanze etev vemirtav. Il est impossible d'expliquer clairement ce sujet par écrit. Si mes souvenirs sont bons, c'est la seule fois dans le Tanya dans laquelle l'Admor HaZaken utilise cette expression. Qui n'arrive pas à trouver de mots pour exprimer. Non, justement. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de mots. Tout le temps, on arrive à trouver des mots pour expliquer ce qu'on veut dire. T'as écrit un Tanya entier pour expliquer des choses les plus profondes. Mais là, l'Admor HaZaken dit, il est impossible de trouver des mots pour expliquer convenablement ce concept par écrit. En d'autres termes, ou tu l'as, ou tu l'as pas. Ça dépasse les mots. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer par des mots. Hein, c'est
indicible,
exactement. Alors il dit, bon, alors c'est bien beau, tu dis, bon, c'est comme les gens qui te disent, ouais, laisse tomber, tu comprendras jamais. Ouais, d'accord, mais je fais quoi? Laisse tomber, tu comprendras jamais, c'est pas pour toi. 358, c'est pas pour toi.
Non.
Pardon.
450, c'est pas pour toi.
Pas pour toi. Je vois des visages qui sourient, je crois qu'il y a des buts qui sont marqués par-ci, par-là. Je comprends pas, moi, mais c'est pas pour moi.
Il y a un match,
ça, là? Non, il y a juste un match qui fait. Ah. Je vois des sourires, je vois des tristesses. Ah, mais, chaque façon. Donc, tu dis là de Mourazaken, V.I.F. Char, Leva'er, Inyanze, Etev et Mirtav. On ne peut pas expliquer convenablement ce concept par écrit. On ne peut pas. Rak seulement, kol ish nilvav venavon, tout homme doué de cœur, d'accord, et de discernement, amaskil aldavar, qui va réfléchir sur la chose, ou ma'amik, qui va s'approfondir, les kasher d'ato d'vunato bachem, pour attacher profondément son esprit avec Kadosh Baruch Hu, imtsa, trouvera, tov ve'or aganuz benafsho amaskelet, la lumière, le bien et la lumière enfuis dans son âme intelligente. Ça veut dire, Admor HaZaken, un autre terme, il te dit, je peux pas trouver des mots pour te dire ça. C'est en toi, mais il faut que tu le développes. Celui qui n'a pas développé ne peut pas comprendre de quoi on parle. Celui qui n'a pas connu cet amour envers Dieu comme la soif, on dit que les Baal Tshuva, quand ils font Tshuva, ils ont ça un petit peu au début. Comme ça, on dit. On dit qu'un Baal Tshuva, lorsqu'il démarre, il sent comme ça le faux poudre, il sent la soif, comme ça, la soif. Mais le problème, c'est que cette soif ne dure pas longtemps, chez Baal Tshuva.
Pourquoi ?
Parce qu'après, il boit de l'eau, il est désaltéré. Tu comprends ? Hier soir, t'avais soif ?
Oui.
Bon, t'as bu ? T'as plus soif. Tu comprends ? T'avais soif, t'as bu, t'as plus soif. Alors dis-toi que la même chose, le Baal Tshuva, il a soif, parce qu'il est en recherche. Il veut la spiritualité, il boit, il a plus soif.
Alors que le tzaddik,
oui, mais je comprends, non, Dieu il a des problèmes.
Alors que le Baal Tshuva n'est pas vraiment un Baal Tshuva,
non.
Il va s'arrêter.
Non, il ne s'arrête pas qu'il s'arrête, c'est qu'il prend une vitesse de croisière et il a plus soif. Non, c'est ce qu'on a dit. Il y a le Kohen, il y a le Lévi. Le Kohen, celui qui monte, il prend une vitesse de croisière. Le Lévi, c'est celui qui n'arrête pas de fluctuer. Constamment, il bouge, ça s'arrête pas. La bourse, ça s'arrête pas. Il peut pas s'arrêter. C'est pour lui, dès qu'il y a une ligne droite, ça marche pas. Il dit non, c'est pas possible qu'il y ait une ligne droite, c'est pas possible. Trouvez-moi un virage, il me faut des virages. Ça, c'est le Lévi. Le Lévi, il faut constamment que ça bouge. C'est le Lévi. Il a tout le temps soif. Il lui faut tout le temps un challenge, tout le temps un truc. C'est dur à vivre, ça. C'est très dur à vivre. Imaginez une vie dans laquelle vous cherchez tout le temps, vous ne trouvez pas.
Bah, les chercheurs, justement.
Les chercheurs, ils trouvent des choses. D'accord. Mais c'est dur dans ce cas-là, de chercher quelque chose pendant des années sans trouver. Sans trouver, ça veut dire que tu cherches et que ce que tu trouves, tu dis non, mais c'est pas ça ce que je cherche, je trouve encore autre chose. Je cherche encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Tu montes.
C'est
très difficile. Très difficile.
C'est possible.
Ah, mais c'est, tout est possible.
C'est possible.
C'est ce que dit Admor Hazaken.
C'est un boulot à longue haleine. Hein.
C'est vraiment. Alors, ce que dit Admor Hazaken, en vérité, vous savez comment on fait pour arriver à ça? En vérité, chacun de nous est conçu pour arriver à ça.
Ouais.
Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Moi, j'y arrive pas en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui arrive. Comment c'est qu'on n'y arrive pas à avoir cet amour non-stop? Vous savez à cause de quoi? Il y a une seule chose, il y a une seule cause. Une seule cause. Non, vous expliquez pourquoi, c'est très simple. Il dit, Kol chad le fum shiur adile, viesh mitpel, viesh mitpael, acharek dimat iratret, je suis en bas de la page 318, liot surmera betachlit, shelo liot avonotechem avdinu chazeshalom. Voilà. Il y a une seule chose qui bloque tout ça. C'est quoi? C'est l'avérante. Tant que tu ne fais pas de faute, tu montes. C'est comme Kippour, tu vois. Kippour, tu montes en puissance. En vérité, si on continue après Kippour sans fauter, le lendemain pourrait être aussi Kippour.
Exactement.
Et tu montes. Qu'est-ce qui fait que tous les jours n'est pas Kippour? Parce que les fautes reviennent. Et dès que les fautes.
Pareil pour Shabbat,
mais c'est vrai, mais bon.
Shabbat, tu rentres dans une bulle, t'es bien. Hop, tu ressors. Paf,
qu'est-ce qui fait que dimanche n'est pas Shabbat?
Alors, pourquoi il aurait pas fait alors, toute la semaine Shabbat?
Voilà. Qu'est-ce qui fait que dimanche n'est pas Shabbat? Parce qu'entre-temps, je reviens dans le monde de la faute.
Le magasin,
d'accord.
Un monde à son image.
Voilà. Et donc, quand tu viens dans le monde de la faute te bloque. Quelle est la force du tzaddik? Quelle est la force du tzaddik? La force du tzaddik, c'est que lui, il n'arrête pas de monter, et qu'il n'y a pas de, avéra qui le bloque. Essayez de vous rappeler la première faute que vous avez faite après Kippour. Vous rappelez?
La première
faute que vous avez faite cette année après Kippour.
Non.
Ça remonte à loin. Non, bien sûr que vous avez fait des fautes. C'est sûr qu'on a fait des fautes.
Mais on s'en souvient pas forcément.
Bon, la première que tu as fait, la faute que tu as fait, c'est que tu étais dans un état d'élève. Mais la faute, elle était peut-être même pas quand tu es sorti de la synagogue, même avant que tu sortes de la synagogue.
Ouais, t'as parlé à quelqu'un.
Voilà, t'as parlé à quelqu'un, c'est fini. T'as eu un regard sur quelqu'un, t'as eu une mauvaise pensée sur lui, etc. etc. Voilà, bon, je sais pas ce qui a pu se passer. T'es sorti, il y avait une femme. Je sais pas ce que t'as pu penser. Chazé Shalom. D'accord, chacun il se connaît. Ben voilà. C'est dans ce cas le problème. Le problème c'est que tu montes. Et après, t'as une avéra qui te happe vers la réalité. Si on n'avait pas d'avérote, on pouvait arriver au niveau de Tzidikim. Monter sans cesse. Qu'est-ce qui nous ramène vers la réalité? C'est l'avérote. Maintenant, on ne doit pas s'en vouloir. On n'est pas des Tzidikim, on est comme on est. Mais il faut comprendre qu'en vérité, on pourrait arriver à un niveau comme ça. Un niveau de passion, non-stop sans cesse. Pardon, hein?
En vase clos. Tu t'enfermes.
En vase clos.
Même là, tu peux te faire.
Ça pas de vérote. Parce que vous croyez que quand on vient en vase clos, il n'y a pas de faute. Et tout le temps, des fautes.
Non.
Tout le temps, ne vous inquiétez pas, ils se dérouillent toujours les tsars pour faire des fautes. Tout le temps. Pas de problème.
Moi, je vois pas beaucoup de grands rats circuler dans la rue, machin.
Les tsars, il peut te faire des fautes à Ibiza, il peut te faire des fautes sous ta couverture. Pas de problème. On s'accommode. Les tsars, il peut faire des fautes partout.
Ah, mais il est omniprésent, c'est clair. À chaque instant.
Oui, mais déjà, tu te mets dans une position, dans un contexte qui fait que tu n'es pas sollicité, ni ton regard, ni quoi que ce soit. Déjà, tu vas éliminer une grande partie de sollicitation ou d'avérote.
Alors, ok, bon, on a bien compris que ce niveau-là, c'est pas un niveau qui est pour nous.
Ah non.
D'accord. Maintenant, je vais dans la suite du chapitre, on va essayer d'expliquer pourquoi, en quoi ce chapitre va nous parler. Parce que là, pour l'instant, ça ne nous parle pas vraiment. On ne sent pas qu'on parle de gens comme nous. Là, on sent qu'on parle de gens d'un autre niveau, d'une autre ligue. C'est des tzadikim, que leur problème, c'est ce que je décolle ou je décolle pas. Mais bon, c'est un autre niveau. En vérité,
s'ils sont arrivés, on peut éventuellement essayer.
On peut essayer d'y arriver, mais je vais expliquer comment, en vérité, ce concept, on le retrouve partout. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Quel est le challenge? Quel est mon challenge et quel est le challenge de Tzadik? Et après, je vais expliquer comment, quelque part dans ma vie, j'ai un challenge comme ce Tzadik. Mon challenge à moi, c'est de ne pas fauter. C'est d'essayer de décoller, je ne parle même pas de décoller, c'est d'essayer de ne pas tomber déjà.
Déjà, marcher droit.
Marcher droit, pas tomber, c'est déjà pas mal. Maintenant, le Tzadik, quel est son challenge? De résister et d'essayer de décoller un peu quand je peux. Ouais. Quel est le challenge du Tzadik, puisqu'il décolle constamment? Son challenge, c'est de redescendre tout le temps.
Pourquoi?
D'où la discussion qu'on avait tout à l'heure. Le challenge du tzaddik, c'est de se dire, c'est vrai que je décolle, mais je dois revenir sur terre. Je ne dois pas me laisser aller dans mon extase, je dois revenir constamment. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, tu as le ratso qui doit être suivi d'un shov. Ratso, c'est un décollage. D'accord ? Shov, c'est un atterrissage. Tu as un ratso qui doit être suivi d'un shov d'un atterrissage. Et c'est le challenge constant du tzaddik.
Quand le rav, il transcende.
Oui.
Son âme, elle sort.
Oui.
Elle sort de son corps. Jusqu'à. Et le danger, c'est qu'à un moment, elle sort tellement qu'elle.
Oui.
Elle ne peut plus réintégrer le corps.
Non, justement. Il faut savoir la freiner.
Il faut savoir la freiner.
Il faut lui dire stop. Alors c'est quoi le shov ? Le shov, c'est le retour.
Comment tu dis ?
Shov. Ratso, va shov. Ratso, c'est le décollage. Shov, c'est le retour. Le challenge du tzaddik, c'est constamment de revenir les pieds sur terre. C'est un challenge pour lui. Moi, mon challenge à moi, c'est d'essayer de décoller. Son challenge à lui, c'est d'essayer de réatterrir. Maintenant, je vais vous expliquer comment, en vérité, ce concept, on peut le trouver n'importe où dans la vie. Le concept d'un ratso sans shov. Très simple. Imaginez, par exemple, que dans votre vie, vous avancez plus vite que votre femme, spirituellement.
Ou l'inverse.
D'accord ? Ou l'inverse. Donc il y en a un qui avance plus vite que l'autre. Donc il y a un décollage qui doit être suivi d'un atterrissage. Parce qu'on va dire, le bonhomme, il est là, il fait un super Shabbat, Fabringen, et tout, Taco Netanya, Chassidut, la totale, etc. Il revient à la maison, la télé est allumée, on attend le match. Ouais. Le retour à la réalité est vite arrivé.
Le retour du futur.
Hein ? Tout juste si on n'a pas appuyé sur la télécommande. Il se dit, c'est dur. Le retour est difficile. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, t'as des gens qui vont dire, ce qui est une erreur évidemment, qui vont dire, écoute, toi tu décolles, et le jour où t'as plus pied, eh ben tant pis, celui qui a plus pied, eh ben il va être largué au fond.
Tu décolles.
D'accord? Toi tu décolles, et le jour où elle te suit plus, ou ils te suivent plus, tant pis.
C'est source de problème.
C'est source de problème, source de divorce. Non. Mais t'as des gens qui vont te dire, ce qui est une grave erreur évidemment, je le précise tout de suite. T'as des gens qui vont dire, écoute, tu montes dans la Torah, tu décolles. Si on veut te suivre, on te suit. On veut pas te suivre, ben. C'est comme ça.
Concrètement, tu fais quoi?
D'accord. Attends doucement. Évidemment. Ouais. Quoi? Non. J'ai pas dit que tu regardes le match.
Tu rentres, t'es allumé, il y a le match.
Non. Toi, tu regardes pas le match. D'accord. Mais tu. Tu apprends.
Non, que t'es pas content.
Je parle pas de toi, de ta famille. Hein?
T'es dans le match toi-même. Comment tu veux regarder un match?
Ouais, je connais des gens ici. D'accord? Des gens qui te racontent. Des gens qui peuvent être au Fabringuet, qui peuvent venir de cours de Torah, etc. Qui te racontent, qui te disent chez eux à la maison, leur femme dans la chambre, d'accord? Elle allume son téléphone, elle fait tout. Et le gars, il est déstabilisé. Complètement.
Ouais. Il joue pas la même cour. Il joue pas le même match.
Mais il lui rend Fabringen, il voit son fils qui sortit en train pour aller fumer une cigarette. Il est déstabilisé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très dur. Donc là, t'as ceux qui vont te dire, écoute, moi je décolle, et s'il faut, j'irai m'enfermer dans une yeshiva. Ça, c'est mauvais. Ça s'appelle un décollage sans atterrissage. D'accord? Peu importe, on ne cherche pas les exemples ici. Parce que chacun de nous, à sa façon, est concerné par ce problème. De ne pas admettre qu'il faut revenir à la réalité, quitte même à des fois descendre ton niveau. C'est-à-dire toi tu bien sûr descendre, freiner, oui, bien sûr freiner.
Pour essayer de recoller.
Pas que le couple, les enfants,
oui,
tout.
Oui, pour
freiner.
Pour unifier.
Freiner. Bien sûr. Je vous ai raconté souvent cette histoire que j'ai eu plein de fois ça. Les gens qui voulaient laisser pousser la barbe. Et il disait au roi Vazimov, j'étais une fois devant, il a dit au roi Vazimov, il a dit, voilà, j'ai pris la bonne décision, je crois que c'est pour Yudjvad, je sais pas quoi, et j'ai pris la bonne décision de laisser pousser ma barbe. Il avait une petite barbe naissante comme ça. Le roi Vazimov lui a dit, est-ce que ta femme est d'accord avec ça? Et il a dit, pas encore, bientôt si tu veux. Il a dit, tu rentres chez toi, tu rases ta barbe.
Oh, mais c'est l'inverse de ce qu'on
a
dit. Oui. Parce qu'il a raison.
Comment c'est... Deux secondes.
C'est l'inverse de ce qu'on a
pour le shalom.
Ça n'a rien à voir.
Pour le shalom.
Non. Comment c'est possible? Le bonhomme, il est là. Moi, vous n'allez pas demander à moi de vous expliquer. Je peux vous faire un cours entier sur la barbe. Vous expliquer à quel point la barbe, ça apporte la bracha, toutes les brachot, et les 13 attributs de la miséricorde, et tout ce qu'on veut. Comment tu peux donner une instruction à quelqu'un de raser sa barbe? Comment c'est possible? Parce qu'encore une fois, parce que un ratso doit être suivi d'un shov. Un décollage doit être suivi d'un atterrissage. Ça veut dire que ton décollage doit être en adéquation avec ta famille. Ça doit être, quand on a une démarche de teshuva, c'est pas une démarche d'une personne. C'est une démarche d'une famille. Alors il y a peut-être un chef de file, il y a peut-être une locomotive. tu peux être la locomotive qui tire tout le monde. Ça, c'est possible. Mais la locomotive doit tirer tout le monde. Le jour où tu as la locomotive qui est détachée des autres wagons, c'est un problème. Le rabbi donnait souvent cet exemple. Le rabbi donnait souvent cet exemple en Italie. Vous savez, en Italie, c'était l'anarchie, c'est la pagaille à l'époque de la guerre. Il raconte qu'une fois, il y a un train 1. Bon, il raconte que à l'époque, ils ont gagné, ils ont perdu. Bon, ils n'ont pas joué, d'accord. Il raconte qu'à l'époque il y avait une fois un train dans lequel tout le monde achetait les billets, ils sont tous rentrés dans le train. Bon, ils attendent, l'heure du départ est arrivée. Et le train, il part pas.
Locomotive.
Le train, il part pas. Ils comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils attendent, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils attendent, ils descendent, le contrôleur, il descend, il voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il se rend compte? Il n'y a pas de locomotive. C'est pas possible, il était la locomotive. Qu'est-ce qui s'est passé? La locomotive, elle est partie. Le train, il a sifflé. Ils ont oublié d'accrocher le wagon. Maintenant, comme c'est l'anarchie, personne s'est occupé d'accrocher le wagon. Ça, c'est un exemple que donnait le rabbi pour expliquer de la même façon. Des fois, tu peux avoir une locomotive. Tu vois une personne qui est ticherie, etc. Il a fait les feuilles de ticherie sur la Bereshit. Mais après, sa locomotive n'était pas accrochée au wagon. Donc la locomotive, elle est partie. Et les wagons sont restés à la gare. Le train n'est pas parti. C'est un échec. Et le train finira par revenir à la gare, de toute façon. Qu'est-ce que tu crois? Une locomotive vide, elle finira par revenir à la gare. Tu vas gagner quoi? T'as rien gagné. Vous êtes d'accord? C'est la même façon. Dis-moi, je vais décoller, je vais leur montrer. Tu vas rien décoller du tout. Tu vas décoller, tu vas te fracasser, tu vas casser la figure.
Ah, mais le bal chouba, il faut qu'ils comprennent que c'est un travail
c'est
de longue
haleine. C'est tout à fait vrai.
Bien sûr. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail d'une famille. C'est une famille qui avance. C'est une famille qui avance.
Mais on peut pas obliger.
On n'oblige jamais. Jamais. On n'oblige personne à quoi que ce soit. C'est un travail qui prend longtemps, qui prend des années. Et c'est ça le chauve. Bien sûr. Donc vous voyez, quand je parle finalement de chauve, quand je parle de retour, c'est pas forcément quelque chose qui correspond au tzadikim. Tout à l'heure, on croyait que ça correspond au tzadikim. On dit, nous, notre challenge, c'est d'essayer de décoller. Le tzadik, son challenge, c'est d'essayer d'atterrir. Mais en vérité, quelque part, on a tous ce côté tzadik, dans lequel il y a des éléments dans notre vie dans lesquels on décolle, et dans lesquels la réalité nous rappelle, les faits nous rappellent à la réalité, et on se rend compte qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors, t'as le Khmar qui va dire, bah, tant pis, j'avance et je largue tout le monde. Je laisse tout le monde sur le carreau.
Il avance pas.
Il perd tout.
Il avance pas. Enfin, en tout cas, celui qui joue tout seul sur le terrain, il marche pas, ça marche pas. Même s'il court vite. Ouais. Il est obligé d'avoir les autres avec lui. Ça. On est d'accord? David, t'es d'accord avec moi? Est-ce qu'on va voir un joueur solo?
Ah, j'ai arrêté de fumer, moi.
Est-ce que ça existe, des joueurs solo? Qui te prend la balle depuis le début jusqu'à la fin, il gagne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un travail d'équipe. De la même façon, tu vas avancer dans la Torah, c'est un travail d'équipe. T'as le rôle de ta femme, t'as le rôle de tes enfants, chacun son rôle.
C'est une femme qui veut pas, j'ai joué comme ça.
Quoi?
La femme va reprendre la Torah et la télévision.
Qu'est-ce que t'en sais qu'elle veut pas encore? Elle est pas encore à ce niveau-là.
Non, je vois, le mec qui fait tout, qui fait ça, c'est
pas différent. Parce que peut-être pour elle, il y a une mitzvah qui lui parle plus, et pour toi, il y a une mitzvah qui lui parle plus.
Quoi?
Eh ben, on avance progressivement, ça prend le temps que ça prend. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, je voudrais préciser un point très important. Quand on se marie avec quelqu'un, quand on se marie avec une femme, d'accord, on se marie avec elle telle qu'elle est. D'ailleurs, ça veut dire que moi, des gens, il y en a qui me disent, ouais, je marie avec elle, elle n'est pas encore chez Mère Shabbat, mais elle pleura pour moi. Non, ça, c'est les ch'tuyotes, ça. Tu te maries pas pour changer quelqu'un. Tu te maries, tu la prends telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et là, effectivement, si quelqu'un est chômeur Shabbat et qui fréquente une fille qui n'est pas chômeur Shabbat, d'accord, on lui dit, ça pose problème. T'as rien à faire avec elle. Parce que la force est chômeur Shabbat, t'as le droit de le faire. Et d'un autre côté, tu corresponds pas avec elle. Non, c'est pas d'accord. Elle le fait pour qui? Si elle le fait pour toi, ça tiendra pas. C'est pas possible. D'accord? Non, c'est ch'tuyot. C'est les ch'tuyot, ça marche pas. Alors, très bien, alors, dans ce cas-là, elle est pas pour toi. Vous avez pas les mêmes intérêts. Ça, c'est avant le mariage. Avant le mariage, on te dit, si elle est pas au même niveau, si vous êtes pas sur la même longueur d'onde, vous êtes pas fait pour être pour vous. Vous allez vous faire souffrir les uns les autres, ça sert à rien. Par contre, si maintenant on s'est marié et on était les mêmes, et qu'après, bah, au Hachem, il y en a un qui fait tchouba, il y en a un qui avance, là, on dit, c'est pas parce que toi t'as avancé que tu vas obliger l'autre à avancer. Tu vois, t'as pas le droit de faire ça. C'est absurde de faire ça. Tu vas dégoûter l'autre de la religion. Tu vas le dégoûter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, à cause de la religion, il m'a largué.
On a des problèmes.
La religion cause des problèmes dans notre couple. Donc non seulement que la religion n'apporte pas le bien-être, elle apporte le malheur à ce shalom. Donc il y a un problème. Ça c'est le chauve. Ça c'est le retour. Ratso va chauve. Et c'est exactement ce qu'il te dit ici. Il te dit le travail du tzaddik c'est quoi? Le travail du tzaddik c'est de se rappeler constamment qu'il doit retourner. Qu'il doit retourner. Ok? Alors on pourrait développer encore beaucoup sur ça, cette notion qu'il faut retourner, mais je vais avancer quelques lignes et on finira avec Bezrat Hashem ce chapitre la semaine prochaine. Ou si on attend, on va finir maintenant. Alors, Veiné. Je suis à la page 379. Veiné. Seder avoda beisek haTorah vaMitzvot anemshechet v'prinat haAvazo iprinat shuv levad. Le service de Dieu pour une personne qui est comme un tzaddik, ça veut dire qu'il n'arrête pas de décoller et décoller. Le décollage n'est pas un effort pour lui. Quel est son travail? Quel est son effort? C'est l'atterrissage. Redescendre. Donc le contraire de nous. Moi, mon effort, c'est d'essayer de décoller un peu. Lui, son effort, c'est d'essayer de ratterrir. C'est-à-dire, il est constamment en train de décoller, il veut constamment avoir les pieds sur terre. Comme il est écrit dans Sefer Yetzira, c'est un livre qui a été écrit par Adam Harishon, V'imratz libecha, si ton cœur s'élance, shuvle echad, reviens à l'un. Ça veut dire quoi? Pirouche, ça veut dire, v'im ratz libecha, si ton cœur court, itchukat anefesh shebalev b'chalalaimani, ça veut dire, c'est la soif de l'âme située dans le ventricule droit, c'est-à-dire que tu as envie de décoller. Shemit gaberet, ou mitla hevet, ou mitla hetet, bim od meod. Lorsque tu sens que ton désir, il prend le dessus sur toi, il s'enflamme, au point que, atklot anefesh mamash, au point que, ton âme veut quitter le corps. L'ishtaper el rekavia, pour se déverser au sein de son père. Chayeh chayim baruchu, la vie de la vie. Velatset mima asara begouf agoufani vagashmi, et qu'elle veut quitter son emprisonnement dans ce corps. Les davkavoyt barer. Aza yashiv el libo mamarazal. Il se rappellera à ce moment-là du dicton de Chachamim qui disent qui al kochar atachay. Dans Pirkei Avot, il est écrit, chapitre 4. Contre ton gré, tu vis. Ça veut dire, tu ne peux pas te permettre le luxe de dire, ben c'est fini, on va décoller. Et hop, on y va, on s'en va. Où tu t'en vas? Tu vas nulle part. Contre ton gré, tu vis. Tu es maintenant dans un foyer, tu as une femme, tu as des enfants, c'est ta femme, c'est tes enfants, tu fais avec eux ta vie. Alors, le tzaddik, son challenge, si tu veux, c'est toute la vie ce challenge. Constamment de atterrir. Nous, on n'a pas le challenge du tzaddik, mais quelque part, dans quelques aspects de notre vie, on a ce challenge. De savoir, à des moments, atterrir. Même si c'est pas facile. Il y a les vacances qui approchent. D'accord? Peut-être que vous avez une façon de voir, d'imaginer vos vacances, et votre femme a une autre façon d'imaginer vos vacances. Et ça peut être un sujet de conflit. Parce que tu comprends, toi t'es là toute l'année, t'apprends des choses, t'as des halakhot, des trucs, etc. Et là tu comprends que les vacances que tu vas passer...
Il va pas à la plage.
D'accord? Et là tu comprends que t'as des choses qui sont... Bon, chacun trouvera les exemples qui lui correspondent. Et je dis, je fais quoi? Très difficile. Le parcours en Baal Tchouba va être très 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 difficile. Il sait pas quoi faire. D'accord? Mais on peut pas comprendre. C'est-à-dire, celui qui passe pas par ça, il peut pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais quoi maintenant? Tu vas ici ou tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il faut savoir descendre. Descendre, ça veut pas dire fauter. C'est pas, ça veut dire, bon, on va aller à la plage, ici, déjà on est à la plage. On va mettre les jumelles.
On va mettre les lunettes de soleil.
Non, je regarde la mer.
Ah oui, lunettes de soleil, t'es tranquille, t'es couvert. Tu comprends? Voilà, il a dit, il faut descendre. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi là?
Mehdi, si on avait eu, par exemple, quelqu'un de la grandeur de celui qui décolle. Et il vient comme ça, il vient devant un barrière de gens qui peut partager.
Bien sûr.
Est-ce qu'il peut faire partager?
Évidemment qu'il peut faire partager. Quand on était chez le rabbi, vous allez à un Simchat Torah chez le rabbi. Il vous fait décoller. D'accord. Il vous emporte avec lui. C'est-à-dire, il vous emporte dans cette flamme, etc. Mais lui, il reste. Vous retombez après.
Je comparais alors à un pilote d'avion qui fait décollage, atterrissage.
Oui. Mais lui, il est tout en haut. Et nous, après, on retombe. Hein? Oui, il partage, bien sûr. Mais ce que je vais vous montrer dans ce cours, c'est qu'en vérité, il n'y a pas qu'un tzaddik qui est concerné par ce qu'on est en train de dire. Même celui qui n'est pas tzaddik, il est concerné par ce problème. Il y a des situations dans notre vie dans lesquelles le challenge c'est de décoller. Il y a des situations dans notre vie dans lesquelles le challenge c'est d'atterrir. Dans la majorité du temps, notre challenge c'est de décoller. C'est d'essayer de décoller un peu, de monter, décoller vers Dieu. Mais il y a des situations dans la vie dans lesquelles notre challenge c'est pas de décoller. Notre challenge c'est d'atterrir. Et des fois ça fait mal. Et je vais vous dire, plus tu décolles et tu veux pas atterrir, plus tu décolles et tu montes, tu ne veux pas atterrir, et plus le jour où tu atterris, tu te casses la figure. Il faut apprendre à atterrir à temps. Il faut atterrir, tu n'as pas le choix.
Faut pas être perché tout le temps.
Pas du tout.
Si on atterrit sans, pour faire décoller l'autre personne.
On force personne. Tu peux.
Oui, mais l'envie de celui qui est, par exemple, qui avance, il a envie de faire avancer l'autre personne.
Avec la bonne volonté, on avance. Avec la bonne volonté, on avance. Avec la bonne volonté. Moi, je connais des couples où il y a la tchouva, ça a pris des fois 10 ans, 20 ans. Pendant imagine-toi un couple comme ça, pendant 20 ans, un, il était en cirto, que chapeau, etc. Mais il se respecte, d'accord? Sa femme, pantalon, qui était cheveux découverts, etc. Tu dis, mais ils sont ensemble, ils sont mariés, comment c'est possible? Ils ont appris à se respecter l'un et l'autre, et progressivement, petit à petit, des petits pas, tout petit pas, on divorce pas. Reste de chaleur, hein? Non, c'est... Quand chacun, regarde, non. Quand chacun respecte l'autre, on apprend à respecter. Chacun, un, il essaye de décoller un peu vers l'autre, tu essaies de tirer un peu vers l'autre, mais ça n'existe pas que je décolle et je m'occupe pas de l'autre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Torah. D'accord? Ok.
Le rabbin il a dit, t'as le droit de faire ça.
Ok.
Comme ça.
Alors, je vais terminer avec ça, puisque bon, qu'on s'entend mieux le chapitre. Désolé, on dépasse quelques minutes. Donc. Bagoufazé le Achayoto, Kedé Lamshi Chaim Elionim, page 380. Mais le Chaya Chaim Baruchou, le Bogou, Alitorat Chaim, lui a dit Rabbetrin, Ordé de Baruchla, Dikum Shen Verleel. Comment j'ai Katou, Bezor, un Kadosh, le Mevechad Bechad, Pirou, Shaychad, Ayuchod, un Elam, Yébrinat, Almad, Idgalia. C'est ce qu'il te dit ici. Ça veut dire, te dit, quel est le challenge de l'homme? Le challenge de l'homme, c'est de constamment, de revenir vers cette terre, de revenir au Echad, de revenir à l'un, de revenir à ce monde dévoilé, de revenir à la réalité en d'autres termes, pour être plus clair. Et ça, c'est le sens de l'Echa Dodi. L'Echa Dodi, l'Ikra, Kala. Attendez, je vais expliquer. L'Echa Dodi, va mon bien-aimé, l'Ikra de Kala, vers la Kala. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'Echa Dodi, l'Ikra de Kala? C'est quoi Kala? D'accord? Kala, ça vient du mot Kalot Anefesh. Lorsque l'âme a envie de partir. L'Echa Dodi, l'Ikra de Kala. Que le bien-aimé aille vers la Kala, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on calme cette aspiration. Il faut revenir dans la réalité. Il faut savoir calmer les ardeurs. Et c'est la Torah qui te demande. Tu dis, oui, mais attends, comment c'est possible? C'est la Lacha. Calme-toi. Alors après, voilà. Après, il faut faire preuve d'intelligence. Il faut savoir comment faire. Tu peux toujours parler. Tu veux expliquer à ta femme. Tu dis, écoute, est-ce que ça ne te dérange pas? Au lieu de faire ça, on fait ça. C'est une légère modification, mais moi, ça m'arrange beaucoup. Bon, on peut trouver les arrangements. On trouve. Quand tu cherches, on trouve. On peut toujours trouver. Tu comprends? Ça veut dire que tu ne peux pas non plus terminer dans une boîte de nuit. Il y a un problème. Tu ne peux pas aller au cours de Tania toute la...
On peut faire les mêmes cours ensemble.
On peut, voilà. Il y a des solutions. Ou Bazeyuvan, Mamarazal. Je passe à la page 380 et là, on va terminer. Ou Bazeyuvan, Mamarazal, Akora Ratachai. Va la Korah rouler. La Mishnah nous dit, contre ton gré tu vis, contre ton gré tu meurs. Pirkei Avot, chapitre 4. Khazak, quelle page? Contre ton gré tu vis, contre ton gré tu meurs. Maintenant, nous, comment on comprend contre ton gré tu vis, contre ton gré tu meurs? On comprend au sens littéral. Ça veut dire tu vis, tu meurs. Tu dis non. La vie et la mort n'est pas forcément au sens littéral, vivre et mourir. La vie, c'est le décollage, et la mort, c'est l'atterrissage, quand tu reviens à la réalité. On dit contre ton gré, tu dois décoller. Et contre ton gré, quand tu vas atterrir, il faut atterrir.
Souviens-toi d'où tu viens.
C'est pas toi. Ça veut dire, c'est pas toi de décider. Et c'était là l'erreur des enfants d'Aaron. De dire, on veut décoller, sans atterrissage. On avait fait un cours pour ça. D'accord? D'un décollage sans atterrissage. Seulement voilà. Il te dit, qu'est-ce que doit faire l'homme? Constamment. Monter, décoller, atterrir. Décoller, atterrir. Comment je suis comme la chair? Donc voilà la conclusion. Conclusion d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui, c'est qu'on a deux catégories d'amour. On a un amour comme la passion et on a un amour comme la soif. L'amour comme la passion, c'est un amour dans lequel tu cherches quelque chose que tu trouves. Ça, c'est l'amour que nous avons, que la majorité d'entre nous a. Je cherche quelque chose, je le trouve, après ça se calme. La majorité d'entre nous a ça. Tu vas avoir un Shabbat, tu vas avoir une prière, tu vas avoir un tzaddik, tu vas avoir un kippour. Tu cherches quelque chose, tu trouves, après basta. Après, tu as l'amour comme la soif. C'est un amour qui s'arrête jamais. Ça, c'est un amour de tzadikim. Et cet amour-là, le challenge, c'est quoi? C'est de savoir atterrir. Ça m'en vient d'expliquer que c'est vrai que cet amour ne concerne que les tzadikim, mais le concept de cet amour, à savoir que parfois, il faut savoir atterrir, c'est un concept qui concerne chacun de nous. qu'on doit savoir quand on doit décoller, et on doit savoir quand on doit atterrir. Et atterrir, ça veut dire descendre. Pour atterrir, il faut descendre. Descendre, oui, descendre. Descendre en essayant de ne pas tout fracasser. Akoraratamet, akoraratachai, akoraratamet. C'est ce qu'on va souhaiter dans Tachem. On va souhaiter qu'on va savoir être en harmonie. Rappelez-vous, le Lévi, c'est l'harmonie. Il monte, il descend, l'harmonie. Et quand on vit comme ça, automatiquement, on a une vie harmonieuse, dans le shalom, etc. Et progressivement, on monte. Alors on fait, voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais progressivement, la courbe, vous savez, c'est comme une bourse, tu vois. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais après, quand tu prends la courbe générale, tu vois que globalement, dans l'ensemble, ça monte. C'est-à-dire, hop, il monte, il descend. Il monte, il descend. Tu crois que ça redescend. Mais ça redescend un peu moins bas que la dernière fois. Donc ça monte. Slowly, slowly. Doucement, doucement. Ça, c'est comme le Lévi, comme la musique. Pac, pac. Très bien. Doucement, doucement. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. On va s'arrêter avec ça pour le chapitre 50, Bézra Tachem.
Juste une question.
Allez-y.
Il évoque effectivement la phase de décollage, la phase d'atterrissage. Il parle d'un amour passionnel, il parle d'un amour...
De soif.
De soif. Et en fait, on ne sait pas quel est le meilleur, quel est le moins bien. On ne sait pas trop.
Bah évidemment, le meilleur, c'est le deuxième. C'est un amour de soif. Mais c'est un amour qu'on n'a pas en général.
Il y a une personne sur 10 000 qui arrive au 3 millions.
Très bien.
Donc, c'est pas le commun des mortels.
C'est pour ça que j'ai expliqué. C'est pour ça que j'ai expliqué que même si cet amour de soif, on ne le connaît pas, mais le concept, on le connaît. Ce concept de décoller sans intérêt.
D'accord. Mais à aucun moment, parce que pour moi, la Torah, c'est un guide de vie.
Oui.
C'est vraiment l'emploi de la vie.
Oui, bien sûr.
Et à aucun moment, il évoque, je dirais, le. Parce que, entre des extrêmes comme ça, on fait allusion à l'image de l'avion qui décolle. Normalement, l'avion, il décolle, mais.
Sa vitesse de croisière. Mais il doit atterrir.
À un moment, il doit atterrir. Mais entre le moment où il décolle, il va atterrir. C'est le chemin de la vie.
Le pilote de l'avion, avant de décoller, il a déjà prévu où il va atterrir.
Oui, est-ce que vous savez, vous, dans 30 ans, où vous serez... Vous
le pilote, avant de décoller, il sait où il va atterrir. Attendez, parce que... Et sinon, c'est pas qu'il est dans les airs, il attend qu'il n'ait plus de fuel, il dit « Ah, plus de fuel !» Non, mais il peut pas atterrir. Il a un plan de vol.
Quand je dis il a sa vitesse...
Et dans ce plan, il y a un décollage, il y a un atterrissage.
D'accord, mais à aucun moment on évoque la vitesse de croisière, les perturbations, les hauts, les bas...
Oui, très bien.
Il faut prendre ça aussi.
Je n'ai rien compris.
C'est pas serein.
Bien sûr, tu as raison, c'est pas serein. Mais en fait, ce qu'on voulait développer aujourd'hui, c'est les deux challenges qu'on a dans la vie. D'un côté, on a un challenge qu'on essaye de décoller un petit peu, et d'un autre côté, on a un challenge qu'il faut savoir atterrir.
Ils ont décollé, mais ils n'arrivaient pas à atterrir.
La trajectoire.
Challenge.
Ils n'ont pas atterri.
Ils n'ont pas
atterri. On ne peut pas se maintenir en vitesse de croisière.
Il y a des hauts débats.
Parce que tu peux te maintenir en vitesse de croisière que si tu as en partage avec toi tout ce qu'il fallait.
Toi, tu as pu descendre.
Si tu as laissé derrière une femme et des enfants, tu vas te casser la figure. C'est un décollage. À un moment, il n'y aura plus de.
Il y en a, ils sont là. C'est pour ça que j'aurais aimé trouver un. Justement, un développement. Sur le
ça, c'est votre vie, le développement. C'est vous qui le trouvez dans votre vie.
Mais si on a un maître...
Oui, lui, il vous donne les concepts.
Un plan de vol.
Il vous donne les concepts. Après, les concepts, vous les appliquez dans votre vie.
Il me dit, voilà comment on décolle. Voilà comment tu dois atterrir. Mais au milieu,
Au milieu, c'est la vie. On essaye de tenir comme on peut.
Mais c'est ça que nous attendons. C'est ce qui se passe au milieu aussi.